Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous en tout cas ce matin, je suis vraiment honoré, j'affectionne j'admire et je respecte énormément le pasteur Bernard, son épouse, ses enfants, c'est une grande joie, c'est un privilège d'être ici dans cette belle et magnifique en tout cas église. Effectivement, il y a longtemps que je ne suis pas venu dans la région, mais j'ai quand même des échos et particulièrement, Angers est une ville qui fait écho dans toute la France pour son dynamisme, pour son amour, mais aussi pour, je dirais, ce que j'ai vu hier et avant-hier. Vraiment des personnes et des frères et sœurs de qualité. Merci pour votre accueil, pour votre chaleur. Ça fait plaisir aussi de voir Bénédicte qui est ici, présente, qui m'a chaleureusement accueilli dans cette belle église réformée et déformée, donc de belle ville, mais aussi de voir Chico qui est venu aussi d'Angoulême. Merci à ceux et celles qui nous ont rejoints ce matin. Je suis là effectivement depuis vendredi où j'étais simplement en admiration face un petit peu à cette belle œuvre qui se développe et puis aussi votre belle et magnifique église. Je bénis Dieu donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis, comme je disais hier, Saïd, d'origine marocaine, donc ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. On n'a pas choisi. Mais je suis fier d'être arabe et chrétien, mon épouse est d'origine algérienne et effectivement je suis propriétaire, j'ai de la chance de deux enfants. Donc j'ai mon fils qui a 24 ans, il est en théologie à Strasbourg, il passe en doctorat l'année prochaine. Et ma fille est en politique et relations internationales, elle vient d'être diplômée par la UCL à Londres et puis elle va faire HEC. Et mon épouse est conseillère en images, elle vient juste de laisser un restaurant afghan, donc elle était dans ce qu'on appelle la restauration, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle de l'inclusion citoyenne auprès des Afghans. Et elle a ouvert ce restaurant qui s'appelle Kabul Kitchen, qu'elle a laissé aujourd'hui, et donc elle se destine aujourd'hui à un autre ministère. Je bénis Dieu d'être passé de l'islam à Christ, c'est un privilège, c'est une grande joie, et c'est la plus belle des choses. Mais en même temps, je suis redevable de ce que l'on m'a transmis, de ce que j'ai reçu. C'est un privilège pour moi d'être en France. J'ai de la chance d'être en France. Certains Français se plaignent régulièrement. Je serai avec Fabien Roussel mardi, il est de gauche, je suis de droite, mais je m'en fiche. Je rencontre n'importe qui, ça ne me dérange pas. Mais il y a cette fâcheuse tendance à se plaindre le ventre plein. Et souvent, certains qui se plaignent, je leur dis, je vais juste vous payer un aller simple à Daeshland. La chance que nous avons d'être en France. J'aime ce France, lapsus. J'aime cette France qui m'a appris à lire, à écrire. J'aime ce pays pour sa liberté, j'aime ce pays pour son histoire. Pas pour simplement le vin et le cochon, je me rattrape depuis la conversion. Si vous filmez, vous ne mettez pas ça sur les réseaux. J'ai assez de Fatima et de Fatwa sur la tête, merci. Mais j'aime ce pays, vraiment j'aime, je suis attaché à la France. Pour moi, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Mais pour s'en rendre compte, finalement, il faut voyager. Et souvent, je rencontre régulièrement ce qu'on appelle des ministères, mais des ministères de découragement. Et on a besoin de changer d'atmosphère, de changer de langage. Et je veux m'entourer d'hommes de foi, de femmes de foi, de personnes comme Bernard qui, dans la fidélité, dans la durée, sont là et tiennent le terrain. Je ne suis pas impressionné par des petits pitbulls de quartier qui connaissent trois versets par cœur et qui se prennent pour Watchman Nee. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir autant de cheveux blancs dans cette église. Et la Bible, elle est simple, elle dit « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans Chouïa, je te donnerai encore bzaf, beaucoup. » Et ce que j'aime, c'est véritablement ces personnes aujourd'hui d'un certain âge. Je forme des leaders et mes meilleurs leaders, très honnêtement, ont plus de 75 ans. Et je bénis Dieu pour l'église aujourd'hui. Ce que je reçois, l'objet est objet de transmission, je le transmets à mon tour. Et hier, on a arpenté les trottoirs. Je suis tombé dans un cortège assez impressionnant. Et j'étais tellement, tellement fier de voir cette belle jeunesse de votre église. À ma gauche, à ma droite, Mathéo, Anaël, etc. Avec un feu, un zèle extraordinaire. Et je bénis Dieu parce que c'est peut-être le plus grand des commandements que Dieu nous ait laissé. on prête quand même attention aux dernières paroles. Quand ma mère est partie il y a 2 ans, quand mon père est parti en 94, j'étais vraiment attentif à ce qu'ils m'ont dit, les dernières paroles. Et les dernières paroles de Jésus, elles sont pour nous très importantes, elles font écho à l'intérieur de nos vies. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché, il s'est approché, c'est une vérité historique, c'est une réalité spirituelle, et il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et j'ai l'impression qu'on vit comme des mendiants spirituels aujourd'hui. Jésus nous dit qu'il a tout accompli, et dans ce tout, nous avons tout pleinement reçu. Pour moi, il n'y a pas de double, de triple onction ce matin, mais nous avons tout reçu pleinement. Jésus s'est réellement approché. C'est une réalité, c'est une vérité historique, c'est une vérité qui est spirituelle. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et dans cette belle ville d'Angers qui rayonne. Allez ! Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un inversement mental à l'intérieur de nous où on comprend que les gens doivent venir. Si j'attends que les gens viennent, je peux attendre encore très 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 longtemps. Et à quel point j'ai besoin d'être pertinent, j'ai besoin d'être intelligent, j'ai besoin de ne plus être en décalage avec la réalité du terrain et aller à la rencontre de l'autre. Allez, faites de toutes les nations des pentecôtistes. Merci. Allez, faites de toutes les nations. En fait, l'Église est assez extraordinaire. Partout où je vais, l'Église, elle est pleine de chrétiens. Mais il y a très peu de disciples. Et Jésus, c'est ce qu'il nous commande, c'est ce qu'il nous recommande. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, première station missionnaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et on oublie souvent la suite, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et la plus belle des promesses, c'est qu'il est avec nous tous les dimanches, bien sûr, religieusement, traditionnellement, de 10h à midi le dimanche seulement. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il est avec nous quand on arpente les trottoirs d'Angers, qu'on rencontre des personnes qui, je dirais, pour nous semblent d'un autre univers. Et Dieu, il est plein de compassion. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui dans lequel mes enfants sont en train de grandir, est irruptif, il est inflammable. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les grandes puissances mondiales ont promis quelque part à notre humanité que ce nouvel ordre mondial, finalement, il n'y aurait plus d'injustice. On nous promet finalement qu'il n'y aurait plus de famine. On nous dit de toute manière, avec ce nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de violence. Et finalement, que ce que je constate encore aujourd'hui, c'est que l'injustice, elle est là, la pauvreté, elle est grandissante, la haine, la violence, n'en parlant pas. Il y a vraiment un abaissement, je dirais, de l'âge même dans la violence, cette délinquance juvénile aujourd'hui, ça, c'est un petit peu le sujet quotidien des médias. À un tel point que je me pose la question, cet abaissement finalement de l'âge de la violence, on va arriver finalement à trouver des fœtus dans la ville d'Angers avec des armes très très lourdes et qui vont bientôt faire des casses dans les banques. Et pourtant c'est Zola qui nous parle déjà de cette violence depuis le 19e siècle. Et parfois cette violence, elle est là, il faut s'en servir, elle est utile, elle nous construit. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'ordre mondial, mais plutôt dans un désordre mondial, l'impérialisme, le racisme, le colonialisme. On dit que ça a à peu près disparu de la surface du globe, mais je trouve qu'il y a de nouvelles formes d'impérialisme, de nouvelles formes de racisme, d'esclavage et de colonialisme qui font de plus en plus leur apparition. On me parle de la science. Je suis juste impressionné à quel point la science, à partir juste d'un papillon, la science est capable de coller finalement la création de Dieu pour pouvoir mettre en place des choses qui sont techniques aujourd'hui et qui servent. La science, effectivement, la technologie ont considérablement progressé. La sécurité, c'est impressionnant. On est au siècle des moyens de communication, c'est quand même impressionnant. Facebook, Instagram, TikTok, TikTok. On est au siècle des moyens de communication et pourtant même le téléphone arabe est tombé en panne dans nos banlieues. Je me souviens de cette France d'autrefois, dans les années 70, dans les Vosges. Il y avait un pont de 365 mètres. Et quand je traversais ce pont avec mon père, il est maçon. Tu vois, mon père, il a la main de Shrek, frère. Si, en traversant ce pont, je ne disais pas bonjour à un Français, mon père, j'ai chopé le Covid avant tout le monde. Il mettait une triha, je me réveillais la semaine du mois de l'année suivante. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même se dire bonjour, ça devient pesant. On a quelque part perdu une certaine sensibilité. On a perdu des réflexes. Et j'ai l'impression que cette vague-là, elle commence même à s'installer finalement dans nos milieux, dans nos communautés chrétiennes. Il y a même des gangs. Il y a même des clans. Il y a même des meutes. Avec toute cette technologie, je regarde un petit peu nos étudiants qui ont beaucoup souffert pendant la période du Covid et post-Covid. Je me dis, mais l'avenir, il est devenu illisible, impensable. C'est plutôt l'incertitude. C'est neurasthénique ce que je développe ce matin, effectivement, mais c'est la réalité dans laquelle finalement nous vivons. Et notre monde, notre humanité, elle aussi entre la reconstruction, la destruction, l'incertitude, les nouvelles possibilités, la réconciliation et la polarisation, un petit peu un mot à la mode en ce moment. Et nos vies, elles sont tout le temps marquées par ces tendances qui sont contradictoires. Là, il y a des répercussions qui sont dangereuses. Donc le monde dans lequel je vis, il est fragile. D'un point de vue écologique, très honnêtement, sans être climato-sceptique ce matin, j'ai un ami qui s'appelle Guillaume de Villiers qui m'a envoyé quelques nouvelles. Il était à Dubaï, mais j'ai jamais vu autant de pluie en quelques minutes à Dubaï. J'ai des amis qui ont atterri, mais dans une piscine, frérot. C'est deux Marocaines qui sont allées à l'hôtel à la nage, 14 kilomètres. L'autre, c'était Fatima Manou Douce. Non, mais c'est l'écologie, sur un plan économique, je traverse certaines banlieues, il y a plus de 880 quartiers sensibles aujourd'hui, et dans certaines banlieues, bien sûr, il y a une économie parallèle négative qui se développe. Pour ne pas parler, je ne sais pas si quelques-uns connaissent ce que c'est que le shit. Vous n'êtes pas délivrés encore, vous. Mais il y a une économie parallèle négative qui se développe, c'est une certitude. Et il y a des gens qui vivent avec moins de 100 euros aujourd'hui, sur un plan politique, on ne sait même plus où on en est. D'ailleurs, la droite, je ne sais pas, elle est où, la gauche non plus. Et sur un plan moral et spirituel, c'est vraiment la déchéance. En fait, notre monde, le monde dans lequel je suis, non seulement il risque l'implosion, mais en même temps l'explosion. Alors j'entends les chrétiens souvent me dire, toujours cette erreur un petit peu langagière, le monde doit changer. Mais c'est toi, frère, qui dois changer. C'est l'Église qui doit changer. Pour nous, chrétiens, le changement signifie vraiment le renouveau, la transformation dans la perspective du royaume de Dieu et par la puissance de l'action du Saint-Esprit. Effectivement, on a tous les yeux rivés depuis quelque temps vers la Russie et maintenant vers l'Iran. À cause d'une soi-disant bombe nucléaire. Mais moi, mes yeux sont rivés vers quelque chose qui m'a impressionné hier lorsque le pasteur Bernard, finalement, m'a amené dans cette chambre haute là-bas. La plupart des pasteurs me font visiter leurs beaux locaux. Mais jamais personne ne me fait visiter un espace aussi magnifique, un lieu de prière, une chambre haute, parce que la première puissance mondiale, c'est ni Poutine ni Biden, la première puissance mondiale, c'est cette chambre haute là-bas où une mamie, avec une prière, elle peut faire bugger n'importe quelle puissance. La première puissance mondiale, c'est la puissance de la prière. Il y a un pasteur à Paris, il m'a dit, Saïd, j'aimerais t'inviter dans mon église, et c'est une grande église. J'ai dit, je ne viendrai jamais dans ton église un dimanche, je veux venir dans ton église à la réunion de prière la semaine, et tu le dis à personne. C'est dans la réunion de prière que je veux voir les guerriers. La première puissance mondiale, c'est la puissance de la prière. On a les yeux rivés, on pointe toujours le viseur en direction des conflits, mais on doit pointer le viseur en direction de nous. Ce qui me fait peur, c'est pas ce monde, ce qui me fait peur, c'est l'état de l'Église et c'est les chrétiens. Cette frilosité, cette timidité, cette torpeur. Seigneur, libère-moi, Seigneur, change-moi. Donc le monde dans lequel je suis n'a pas besoin d'un discours moralisateur. Le monde dans lequel je suis a besoin de la crainte de Dieu. Il a besoin d'une manière urgente de la repentance et du pardon, de la guérison, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Et par-dessus tout, quand on rencontre les gens, quand on discute, quand on parle avec eux, comme hier après-midi, alors que nous étions dans les rues d'Angers, quand on gratte, quand on discute, malgré les apparences, derrière les apparences, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin d'un avenir. Et dans ce monde de désolation, on a besoin véritablement de cette consolation qui vient de Jésus. Et très honnêtement, je vais être très très honnête, honnêtement, Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est sûr. Je ne suis pas dans la psychologie positive à manipuler les gens avec un discours, mais je sais, cette certitude-là, que Dieu n'a pas dit son dernier mot en France. Et il n'est pas peut-être dans le langage de l'église baptiste d'Angers de rester assise, à se lamenter, avec nos échecs, nos problèmes, nos difficultés. Notre voyage, c'est un voyage d'espérance. Dans la foi, l'espérance, ce n'est pas une attente passive. La foi, elle gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. La foi, ce n'est pas une émotion, une sensation. La foi, c'est de se saisir des choses. En fait, l'espérance, elle consiste à avancer face à un avenir peut-être qui est incertain, mais avec, je dirais, cette certitude au cœur de toutes les tensions, les dissensions que peuvent traverser en tout cas notre pays. J'ai été affecté lors du Covid par cette chauve-souris à quelques heures d'avion. J'ai atterri en Corée avec plus de 600 chefs d'État. Nous étions tout au début du Covid et je suis marocain, j'ai gardé ma culture. Et ils avaient tous les masques alors qu'en France, il y avait Wallou. J'atterris en Corée, je vois tout le monde avec les masques. On me parlait déjà du virus. Et moi, je suis marocain, j'ai gardé ma culture. Donc, j'ai éternué à la marocaine. Parce que quand je voulais passer, j'ai vu la file du Seigneur Jésus, Marie-José Pérec de Coréen. Et j'ai éternué à la... Ah, j'ai vidé l'aéroport. Mais la chauve-souris... Elle nous a affectés aussi en France. Seigneur, j'ai jamais acheté autant de plaques de chocolat aux noisettes. Ma femme, que j'ai jamais vue depuis 20 ans, je l'ai vue matin, midi et soir. Un jour, j'ai cru que j'allais l'étrangler. Et j'ai dû aménager un espace de sécurité parce que ça commençait à chauffer. Hein. J'ai jamais zoomé au Zumba. J'ai zoomé, frère. Mais dans cette période-là assez surréaliste, où commandément nous nous étions attachés un petit peu à notre bon confort depuis des années, à nos beaux messages introduction, trois points, conclusion, à nos traditions évangéliques, tout s'arrête. Même les plus grandes puissances mondiales, frère. Après cette période-là, j'ai envie de faire un peu le bilan parce qu'on oblitère l'histoire, on est chacun pris d'amnésie. Mais si l'Église encore s'arrête, je me demande combien, très honnêtement, d'entre nous vont rester. Parce que moi, j'ai appelé mes leaders pendant le Covid. Je les ai appelés, ils m'ont dit « I like to move it, move it ». Waouh, 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 toutes les formations que j'ai données, elles sont où, frère? J'ai l'impression que Dieu nous a envoyé un clignotant. Il nous a parlé de cette tête chauve-souris, mais quand le dragon de l'Apocalypse va venir... Ah, il rigole bien qu'il ira le dernier. J'étais
énervé quand je regardais BFM TV à la Ouagbar. À chaque fois, il me parlait d'une vague. Première vague, deuxième vague. Je dis, Fatima, wallah, qu'on va acheter un surf. Et les variants, variant 1, variant 2. Oh, j'ai dit, Jésus, s'il nous chope un variant congolais, Izuazaliyama, Izuaz. Jesus. Voilà, dépression. Ah, les pauvres infirmières, on les a applaudis à 20h. Après, on les a assassinés. Cher. Waouh, le monde dans lequel je suis. Bien séducteur, bien trompeur. Cette pandémie, elle a quand même mis en évidence certaines fragilités, celles de nos membres de nos églises, celles de nos mouvements, celles de nos belles traditions chrétiennes. Et je me pose cette question depuis quelques années, très honnêtement, parce que dans nos milieux évangéliques, je rencontre de plus en plus une jeunesse qui se convertit à l'islam. C'est cette question que je me suis posée. Mais la deuxième question que je me suis posée, finalement, à quoi ça a servi, toutes ces grandes conférences, tous ces rassemblements, tous ces séminaires, tous ces messages soigneusement bien préparés, introduction, trois points, ouais, de la conclusion, frère, et ouais, loup à la fin. Non. Il faut véritablement qu'aujourd'hui on prenne conscience que les temps ont changé. Pour moi, l'Église, elle fait partie intégrante de la société. Elle ne peut rester isolée, indifférente, insensible, face aux changements ou bouleversements qui se produisent dans les différentes sphères de la société. Mais que signifie finalement être une église dans un monde qui est constamment en mutation, à une époque qui est marquée par ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, la science, la technologie, le pluralisme des sociétés? L'église, elle est appelée à vivre sa foi. Elle est appelée à vivre l'évangile dans un monde, dans un monde, dans un monde qui est bouleversé. Mais vous allez me dire comment? Je dirais simplement ce matin, nous l'avons dû dans ce verset, allez, c'est par l'obéissance. Et c'est uniquement par l'obéissance. Mais j'ai besoin de contextualiser, j'ai besoin d'adapter le message. Ce message de l'évangile, il est toujours d'actualité. Pour moi, la puissance de la parole, elle est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Elle ne dépend pas, mon frère, ma soeur, ce matin, si tu vas bien, si tu vas pas bien, si tu as le moral, si tu n'as pas le moral. Je suis fatigué de certains chrétiens qui se plaignent toujours le ventre plein. Certains qui viennent me voir, il m'a marché sur l'orteil de mon pied. Je te dis, je vais t'arrêter. Je t'ai payé un aller simple à Deutschland, frère, tu vas plus pleurer. Hein. Les petits bobos spirituels, les petites querelles intestines, les luttes fratricides de nos assemblées, alors qu'on a un monde hier avec un cortège de 3-4 camions qui défilent dans la rue et nous brillons par notre absence. Nous sommes les plus forts dans nos églises, nous sommes l'armée du roi, mais dans la cité, il n'y a personne qui vient, frère. L'Église n'est pas un musée destiné à demeurer immutable. L'Église n'est pas une réalité centrée sur elle-même et autosuffisante. L'Église, elle est en interaction avec le monde. Donc j'ai besoin de sortir de mon ghetto évangélique. Et j'ai besoin de la tendre la main à ceux qui n'ont pas la voix, à ceux qui sont visibles et qu'on tente de rendre invisibles quelque part. Donc cette église doit rechercher constamment des manières d'être mieux adaptées à tous ces modes d'expression que nous traversons. On est déjà dans l'intelligence artificielle. C'est en réagissant face à un monde brisé, permettez-moi de vous dire ce matin, c'est vraiment en réagissant face à un monde brisé que l'église va réellement découvrir sa véritable identité. C'est là où l'église va définir vraiment sa vraie vocation. C'est en réagissant face à un monde brisé, que l'Église va affirmer son identité authentique. Elle va trouver sa raison d'être. Il y a un pasteur avec lequel je devais faire une mission et ce pasteur m'a téléphoné pour me dire « Saïd, c'est vraiment pas le moment. Il y a une grosse division dans l'Église, c'est vraiment tendu, c'est pas le moment que tu viennes. » Je lui dis « Non, c'est juste le moment, c'est maintenant que je dois venir. N'annule pas ce week-end, s'il te plaît. » Et j'ai pris toute l'Église le samedi après-midi. Et je leur ai dit, ben voilà, on va aller dans ce quartier, c'est le plus chaud de la ville, et là-bas, ils coupent des têtes. Ben, je peux vous dire que les chrétiens qui étaient divisés avaient tellement peur qu'ils étaient unis. Ils avaient fini la division.
L'Église devient une communauté de foi, elle devient l'anticipation du royaume de Dieu lorsqu'elle répond aux défis concrets de ce monde dans lequel nous vivons, avec cette vision inclusive de l'Évangile. Les gens aujourd'hui ne se soucient plus de ce que l'Église dit, mais l'Église, elle va impressionner, elle va impacter du moment où véritablement elle fait les choses. Les défis du monde vont plonger l'Église dans des crises d'identité, de crédibilité encore beaucoup plus graves. Et si l'Église n'est pas prête à assumer finalement son rôle évangélique de manière responsable en allant vers les autres, être une Église qui va vers les autres, c'est une Église qui est capable d'aller vers les pauvres, mais on oublie souvent les riches. Elle va vers ceux qui sont marginalisés comme les influents. C'est une Église qui va vers les opprimés comme les bien portants, vers les réfugiés comme ceux qui sont confortablement assis. L'Église, elle est celle de ceux et celles qui recherchent la justice et la paix, qui œuvrent en faveur de l'harmonie, de la réconciliation, qui luttent pour le renouveau, qui luttent pour la transformation. Être une Église qui va vers les autres, frères et sœurs, c'est une Église ouverte au monde et qui est attentive aux signes des temps. Il y a un conflit israélo-palestinien où il y a cette translation, il y a cette identification qui est à la fois politique et sociale. Et on sent à quel point tous les yeux sont rivés aujourd'hui vers Israël et on le sait. Israël a gagné beaucoup de guerres, mais est-ce que Israël va gagner une seule paix? La seule paix que peut gagner ce monde, elle est vraiment en Jésus-Christ. L'Église ne peut pas rester ce système d'enseignement ecclésiologique, de définition dogmatique, de position théologique. Toute théologie, pour moi, qui n'émerge pas du vécu des personnes et qui néglige les pauvres et les exclus, elle manque complètement à l'appellation d'être une théologie chrétienne. L'Église n'a pas besoin de ces théologiens en fauteuil roulant avec du cuir. C'est devenu même des Bentley qui réfléchissent, mais toujours à distance, sécurisante. On a besoin de théologiens qui véritablement ne sont pas en décalage avec la réalité du terrain, mais qui sont vraiment proches des gens. Pour être une Église de façon responsable, au milieu des anxiétés, des incertitudes du monde dans lequel nous sommes. Beaucoup de gens ont quitté les églises, c'est une réalité, je traverse la France de long en large, de l'est à l'ouest. Et il y a un principe de réalité que je vais vous donner, et peut-être que je vais être un peu acide ce matin, mais avec beaucoup de respect, je vous le dis, mais permettez-moi de vous dire, vous pesez les évangéliques, rien du tout. Il y a 68 millions de Français, la première religion c'est l'athéisme, et la deuxième c'est l'islam, c'est 10% de la population. Les évangéliques, vous pesez 800 000 personnes. On sait quels sont les plus grands mouvements. Et quand je traverse toutes ces églises-là, très honnêtement, je regarde les choses sans être négatif. Il y a du travail. Parce que sur les 800 000 évangéliques, vous savez combien d'évangéliques ont quitté les églises? Plus de 250 000. C'est facile de dire de celui-ci qu'il est rebelle. C'est facile de dire de celle-là qu'elle est rebelle. Mais arrivé à un moment, il faut qu'on se pose des questions. Beaucoup de gens ont quitté nos églises car ils ne veulent plus s'associer à une église qui demeure aveugle au changement, aux défis, à l'indifférence, aux aspirations qui sont légitimes aujourd'hui. On a besoin d'une église qui s'adapte, qui contextualise. Il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est secondaire. Je me suis retrouvé dans une église dans le sud de la France où je devais faire une fête de Noël orientale. Qu'est-ce que c'est qu'une fête de Noël orientale? On a enlevé la bûche et puis on a mis une corne de gazelle ou un macroute à la place. Et le dimanche après-midi, il y avait une croix immense en bois dans l'église, immense, immense, immense en bois dans l'église. Et je sais que les musulmans qui vont venir du quartier de la Beaucaire, etc., risquent peut-être d'être heurtés ou choqués juste par la croix. Donc j'ai pris cette croix, je l'ai décrochée et je crois qu'on n'a jamais décroché cette croix depuis au moins 15 siècles. Donc les anciens de l'église, quand ils sont arrivés, les chrétiens, quand ils sont arrivés, ils n'ont plus vu la croix dans l'église le dimanche après-midi. Et ça les a déstabilisés.
Ils ont dit, elle est où la croix? Oh!
Et ils m'ont encerclé. J'étais au milieu. J'ai cru qu'ils allaient me taper.
Ils m'ont dit, elle est où la croix? Qui a touché à notre croix? Qui a enlevé la croix?
Je leur ai dit, mais vous savez, des musulmans qui vont venir, ils vont être heurtés. Et c'est juste pour un temps que je l'ai enlevé pour pouvoir vraiment les accueillir, les mettre à l'aise. Après, on la remettra. Et je leur ai dit, la croix, c'est pas là. La croix, elle est là à l'intérieur de nous. Il faut qu'on l'apporte, cette croix. À quel point on a besoin aujourd'hui de changer les mentalités. À quel point c'est dur de changer les mentalités. L'Église, elle est une réalité qui est missionnaire. La mission, elle est l'essence même de l'Église. Laquelle elle est envoyée aux extrémités de la terre. Acte 1-8, Matthieu 28, 19 à 20. Pour témoigner de la réconciliation, de la guérison, de la transformation. En un sens, la mission, elle fait l'Église, elle lui donne son identité. C'est un objectif qui est clair dans la mesure où il s'agit d'un mandat que Dieu nous a confié. La mission devrait toujours être au cœur de la conception de l'Église d'elle-même. Il ne peut y avoir aujourd'hui de mission sans l'Église et il ne peut y avoir d'Église sans mission. Devenir l'Église implique de défendre la vie, d'avoir un ministère de réconciliation, de donner aujourd'hui véritablement de la voix à ceux qui sont sans voix. Et je suis juste heurté, choqué, outré aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines en France, nous avons, c'est le premier pays dans le monde qui a constitutionnalisé l'IVG. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que devenir une église aujourd'hui, c'est marcher à contre-courant. Mais vous savez ce qu'il faut faire? Si vous ne voulez pas être persécuté, permets-moi de vous le dire, hein, donne-toi bonne conscience ce matin. Tu ne veux pas être persécuté? Il y a ce qu'on appelle les discours de confort. Vous ne voulez pas être persécuté? C'est simple, parlez pas de Jésus. Là, vous n'aurez pas de problème. Moi, non seulement je marche à contre-courant, mais je suis aussi obligé de marcher à contre-courant en même temps. Devenir l'Église, ça implique de défendre la vie. Ça implique de dire que Dieu a créé Adam et Ève et pas Adam et Ève. Une telle conception missionnaire de l'Église impose à celle-ci de dépasser notre espace géographique, notre champ culturel et toutes ses frontières institutionnelles. L'Église, c'est un instrument missionnaire que Dieu utilise pour accomplir son dessein dans le monde. Elle est envoyée dans le monde pour proclamer, déclarer. Nous sommes le sel. Seigneur, que je ne perde pas vraiment de ma saveur. Je suis cette lumière. Je ne suis pas une tête d'ampoule qui brille entre nous. Arrive à un moment, il est la vie, il communique, il donne cette vie. Je veux véritablement aujourd'hui faire la différence. Combien de temps, combien d'énergie, combien d'années encore il me reste? Moi, je suis juste émerveillé, époustouflé de voir Bernard. Il a énergie, il m'énerve. Je ne sais même pas quel âge il a. L'autre, il n'a même pas de cheveux blancs, frère. L'Église est la poursuite de la mission que Christ a confiée à ses disciples. Ainsi, la mission, elle doit s'insérer dans le contexte sociopolitique du monde. J'ai mis en place beaucoup de candidats qui sont engagés en politique. Certains ont même des postes assez importants dans des municipalités aujourd'hui. C'est des adjoints, j'ai aujourd'hui des gens qui sont au Parlement. J'ai beaucoup encouragé la jeunesse à s'engager en politique. J'aime la politique, pas la politique politicienne. Parce que pour moi, la définition de la politique, elle est simple. Si vous y répondez pas, si vous obéissez pas, vous avez un sérieux problème avec ça. La définition de la politique, c'est servir son prochain. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors je ne sais pas. Nous, on est tellement spirituels, finalement, qu'on nous brillons par notre absence. On n'est même pas dans des commissions de quartier, on n'est même pas dans le conseil municipal, frère. Et pourtant, il y a une richesse, il y a un potentiel dans nos églises. Il y a des jeunes qui sont brillants, il y a des jeunes qui font des études qui sont extraordinaires. L'Église ne peut ignorer le monde avec toutes ses ambiguïtés et ses polarisations. La mission de l'Église, c'est un instrument de la mission de Dieu qui consiste à libérer, humaniser, transformer le monde. Dans sa mission, l'Église, à la fois, elle rentre, bien sûr, en elle-même, mais pour un temps. Mais frère, ça fait 40 ans que tu n'es pas sorti de l'Église. Arrive à un moment, il faut aussi qu'on en sorte, quoi. La mission de l'Église, c'est rentrer, mais en même temps, c'est sortir Ecclésia. Dans sa mission, l'Église, elle se réalise dans le temps et l'espace.
Cette entreprise missionnaire ne connaît pas de frontières établies, elle transcende toutes les bornes et les limites, elle s'adresse au monde entier. Allez, faites de toutes les ethnies. Je bénis Dieu pour la richesse de votre Église. Je rencontre souvent les parlementaires, je rencontre souvent les politiques, et certains politiques ont une erreur langagière quand ils me disent « Vous êtes évangéliste ». Je fais « Non, c'est pas te, c'est Q-U-E, frère. » J'en ai remis en place. Je leur ai dit, par contre, je voudrais juste vous dire une chose. Si vous saviez le nombre d'ethnies dans une église. Parfois, à Paris, on est 57 ethnies différentes. Tous les dimanches, sans se disputer, juste on loue le Seigneur. Mais qui peut faire ça tous les dimanches matin dans une église baptiste? Réunir autant de diversité de personnes. Même Kaka, il ne peut pas faire ça. Même Mbappé, il ne peut pas faire ça tous les dimanches. Il n'y a que Jésus qui peut nous unir. Amen. Quelle richesse! Quel potentiel! Quand je regarde finalement, j'ai entendu les témoignages de Anaël. La petite, elle m'a tué. Elle m'a tué par son témoignage. Mathéo m'a tué par son témoignage. Et je voudrais vous dire que le diable est un menteur. Il y a beaucoup d'Anaël, il y a beaucoup de Mathéo, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur. Et on va arrêter d'écouter le mensonge. La France, elle a faim et soif d'entendre la puissance de la parole de Dieu. Et je dois briser tous ces bruits de chiottes qui me polluent et qui me disent que le terrain est dur. Le terrain, il n'est pas dur. Le terrain, il est mûr par la grâce de Dieu. Dans l'action missionnaire de l'Église, se créent des liens qui sont indissolubles entre le local et le mondial. La mission et l'action mondiale de l'Église locale, l'Église, elle est le signe de l'instrument visible du dessein de Dieu pour le monde entier. Le monde entier a terriblement besoin de la présence qui est libératrice et humanisante de l'Évangile. On est face à des écrans qui font écran aujourd'hui à l'humanité, au partage. Je prends le TGV, Paris, Angers, c'est pas possible. Ils sont tous dans les insupportables, les portables, la tronche dans le téléphone, frère. Je vais en écraser 15 cette semaine à Paris, ils vont voir. Même les passages cloutés, ils sont là. Titit, oh ! T'as cru que la route, elle est à ton père, frère, ou quoi ? Il n'y a plus de communication. Il nous faut vraiment dépasser en tant qu'Église le concept d'une mission qui est centrée sur l'Église pour adopter celle d'une Église qui est centrée sur la mission. Quand je vois Bernard, le potentiel, la richesse, les dons, les talents qu'il a, avec certitude, je n'ai pas besoin d'être prophète, mais le pauvre, la retraite, il peut compter dessus. Hein. Non, mais ce serait d'une tristesse abyssale et déplorable qu'un tel potentiel, finalement, il a encore des enfants spirituels. Et je vais vous dire... Moi, je suis fatigué là de... Vous savez, les formations de leadership, etc. Là. Parce qu'à force de faire des formations de leaders, là, on n'est pas là pour faire des formations de leaders. On est là pour faire des enfants spirituels. Amen. Un leader, il apprend trois versets, il te fait, avec un fusil rouillé, il te fait un coup d'état, il va faire une autre église, l'autre. Mais un père, quand il enfante un fils, quand il prend soin des Mathéo, des Anaël, quand il les forme, quand il les discipule, quand il les envoie, un fils, une fille ne trahit jamais son père. Je suis fatigué de tous ces nouveaux ministères interplanétaires galactiques. J'ai formé des leaders, très honnêtement, et j'en forme beaucoup. Et il y en a un, post-Covid, qui est venu me voir et il m'a dit, ça y est, maintenant tu ne m'appelles plus pasteur, tu m'appelles apôtre. Je lui ai dit, écoute-moi bien, si toi tu es apôtre, moi je suis astronaute. Bon, c'est ces petits bouffons là qui se prennent pour je ne sais pas qui. Là. Je dis ça pourquoi ? Parce que... ça va, 11h28. Non, je dis ça avec beaucoup d'honnêteté parce qu'il faut faire attention. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie de disciple n'est pas facile. Il n'y a rien qui est acquis. Hein. Il y en a qui croient qu'on est sauvé éternellement. Les dégâts que j'ai vus. Le ministère, même pour moi, n'est pas un fleuve qui est tranquille. Je peux faire la liste. le ministère n'est pas facile. Il y a des nouvelles qui sont dures. Mais dans les moments-là, Dieu te donne une force extraordinaire, une résilience qui vient de la puissance de l'Esprit, où véritablement Dieu te donne l'intelligence pour gérer n'importe quel conflit. C'est bien beau de connaître les choses par cœur, mais quand tu es face à la réalité de ce monde, c'est dur. Ce sont les disciples de Jean le Baptiste qui annoncent à Jésus que son cousin a été décapité. Chaque année, je reviens du Moyen-Orient, d'un pays fermé, je ne peux pas parler de mon travail ouvertement. Je ne révèle pas la stratégie de mon travail à l'ennemi. Si vous voulez des nouvelles, vous venez vers moi, je vous donnerai mon email et vous pourrez prier pour mon ministère. Mais on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas tout mettre sur les réseaux. Je vais dans des pays aujourd'hui, j'étais dans un pays fermé aujourd'hui en Arabie Saoudite, ce sont des églises florissantes de Saoudiens. Il y a plus de 50 000 conversions en Arabie Saoudite. Le pays où il y a le plus de conversions aujourd'hui, c'est en Iran. Ce sont des milliers et des milliers et des milliers d'Iraniens qui se convertissent. Je rentre tout juste de l'Afrique du Nord et là, l'église, elle est croissante d'une manière extraordinaire. Mais grâce à une chose, c'est parce que vous priez. Ce n'est pas nos talents, ce n'est pas nos charismes, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est la puissance de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Et s'il y a toutes ces conversions alors que vous priez dans cette chambre haute, dans le monde visible et invisible, Dieu est en train de faire de grandes choses. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Lorsque son propre cousin a été décapité, Jésus, il part dans la barque. Il part se cacher, il se met à l'écart. Chaque année, il y a des nouvelles qui sont dures pour moi à encaisser. Il y a des nouvelles qui nous font mal, des trahisons qui nous font mal. Et on vous regarde encore avec le sourire. Hein. Attention au rapport à la souffrance, je ne suis pas inoxydable. Saïd n'est pas tout puissant, même derrière une estrade. On a parfois besoin de se retirer. Mon seuil de résistance n'est pas celui de Bernard. Il y a cette usure compassionnelle. Je lui disais hier qu'il y a 80% aujourd'hui des jeunes qui commencent le ministère ne sont pas préparés au ministère. Il y en a, ils pensent que l'estrade, c'est facile, mais frère, l'estrade, c'est que du plastique. 80% des jeunes qui commencent le ministère, ils arrêtent au bout de 5 ans. Où sont les vocations aujourd'hui? Il y en a, c'est le nombre de followers. Mais Jésus, il n'avait pas... Il en avait que 12, frère, que tu me prends la tête avec ton nombre de followers. Ce que j'aime, c'est lorsque Jésus envoie ses disciples deux par deux, c'est incroyable quand même, ils reviennent tous excités. Hein. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Mais tu veux impressionner qui et quoi? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les renvoie à leur identité. Je bénis Dieu pour le Covid. Le Covid m'a cassé, brisé, détruit, m'a mis par terre. Je bénis Dieu parce que même si on se le dit, etc., finalement, ton identité, elle n'est pas dans ce que tu fais, mais quelque part, quand le Covid a vidé ton agenda. Et que tu n'as même pas une mission pendant 6 mois que tu es chez toi. Tu es walou, tu n'es plus rien. Tout le monde, il n'y a plus personne qui te téléphone. Là, tu te rends compte de la réalité que tu es walou, que tu n'es rien. Il y a des ministères narcissiques. On a une mauvaise opinion du ministère. On n'est rien, on est walou. Il y a le titre et il y a l'onction. Et on a besoin de changer. On a besoin d'honorer les ministères. Mais en même temps, il y a des ministères, frère, ils sont tellement perchés, l'autre, il se prend pour le président Mobutu, wesh. Il faut se calmer un peu, là. Que le Seigneur nous donne de revenir à cette simplicité de serviteur. Le confinement m'a ôté qui j'étais, mais Jésus, pendant le confinement, il m'a dit, Saïd, tu es plus important que ton ministère. On a des ministères déguisés. On a besoin, frères et sœurs, d'avoir une bonne vision du ministère. Que Dieu vraiment nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu aide cette Église véritablement à rentrer dans cette bonne perspective finalement du royaume de Dieu et du ministère. On peut terminer juste par, je ne termine pas, mais si on peut prendre un chant.
Cette année 2024 est quand même une année particulière. Notre thème, de l'année, c'est soit bénédiction. C'est exactement l'exhortation de Saïd, soit une bénédiction. Ne fais pas semblant d'être un chrétien, deviens un disciple. Le défi guérison, c'est un style de vie. Qu'il soit style de vie pour toi. Sois un disciple ayant un style de vie de disciple du Christ. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours. Et on l'a entendu, pas seulement ici, pas seulement le dimanche, pas seulement au groupe de jeunes, mais tous les jours. Sois un disciple, sois bénédiction partout où tu passes. Seigneur, nous sommes devant toi. Et quand j'interpelle en disant « Sois disciple », forcément je me parle à moi-même d'abord. Parce qu'avant d'être pasteur, je suis, en tout cas je l'espère, un disciple. En tout cas je le pense. Quel que soit notre service, notre ministère, c'est d'abord notre cœur que tu veux. Avant d'avoir notre service, notre ministère, notre titre, notre. D'abord, c'est pas le nôtre, c'est le tien. Je disais à un homme que je visitais cette semaine en fin de vie, pas vraiment parce que j'ai prié pour lui, donc il va se relever. Mais je lui disais que l'Église est autrement que le monde. Dans le monde, on gravit les échelons avec un escalier qui monte, alors que dans l'Église, dans le royaume de Dieu plutôt, on gravit en descendant, en soyant de plus en plus humble. Et c'est l'humilité qui nous fait laisser la place au Christ. Parce que moins nous serons remplis de nous-mêmes, plus nous serons remplis de Jésus dans nos cœurs. Et plus nous pouvons le transmettre. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Pour chacun et chacune. Manifeste ta grâce. Que cette exhortation, cet enseignement de Saïd soit comme une graine dans nos cœurs, une graine que nous allons en prendre soin, nous allons méditer, reméditer dessus. Et nous allons venir vers toi pour répondre. Déjà, nous répondons en nous approchant de toi ici, les uns et les autres. Et je réclame vraiment ta grâce, ta bénédiction, ton onction sur chacun d'entre nous. Je réclame la persévérance. Je réclame la paix et la joie dans les problèmes et dans les difficultés, dans les souffrances. La paix et la joie, en tout cas l'enthousiasme de te connaître, même si nous sommes en souffrance ou au fond du gouffre. Parce que notre espérance ne repose pas sur une émotion, mais sur ce que dit ta parole, Et ta parole nous dit que Dieu nous aime et nous accompagne jour après jour. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom du Christ. Hallelujah.